Pascal CV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard.
102. On est de retour à l'émission. Je regarde encore le point de presse en direct pour le pont de Québec. Ouais, grosse annonce. Je viens d'en jaser. On reviendra à ça un petit peu plus tard. Mon Dieu, je me suis étouffée. Je m'excuse, je suis complètement seule. OK, on va le vivre ensemble. C'est parfait. William Trudel aussi de Trudel Alliance. Sera avec nous un peu plus tard. À l'émission, on va parler d'immobilier, puis aussi ce qui va arriver avec les galeries Charlebourg. La ville est en train de se revamper, puis ça, c'est un des acteurs principaux, en fait, de cette mise à niveau de la ville en immobilier, puis en structure, puis en commerce, Trudel Alliance. Alors, on va leur jaser un peu plus tard. Mais là, je suis vraiment contente de recevoir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu Jean-Michel Bertillon, un sémiologue qu'on dit heureux du côté de l'UQAM, qui est en fin de session avec ses jeunes. C'est quoi un sémiologue? Ben, ça prend tout ce qui est culturel et ça l'analyse, mais avec un esprit approfondi quand même. Il est au bout du fil, vraiment contente de le retrouver. Salut Jean-Michel Bertillon.
Salut Pascal.
En forme?
Ah ben oui, fin de session, ben oui.
Fin de session, ça se termine bientôt. Puis après ça, tu vas pouvoir continuer de faire ton travail quand même parce que la période de l'été, elle est quand même assez fructueuse en culture. On attend aussi le nouveau film de Ricardo Troggi, 1995. La bande-annonce est sortie aujourd'hui. Il y a plein de choses intéressantes qui s'en viennent. Mais là, Jean-Michel, toi et moi, on jase depuis quelques jours de quelque chose qui nous fascine. Et c'est pas nécessairement la série en soi. C'est pas nécessairement Baby Reindeer qui attire notre attention, bien que ce soit assez fascinant là, comme série, parce que c'est basé sur ce qu'on pense une histoire vraie. C'est ce qui est décrit. C'est sur Netflix. C'est extrêmement populaire. Mais c'est ce qu'il y a en arrière. C'est tout ce qui est droit derrière d'utiliser l'histoire de quelqu'un, la vie de quelqu'un, et d'en faire du cinéma, d'en faire une série au profit, finalement, économique de la plateforme Netflix pour l'instant. C'est un peu ça qu'on va aller explorer ensemble. Est-ce que tu me permets de faire entendre la bande-annonce, d'abord et avant tout, pour ceux qui n'ont aucune idée de quelle série on parle?
Oui, je t'en prie, je t'en prie.
On lance ça.
Je sais vraiment pas comment ça va finir. J'ai l'impression que l'un de nous deux va devoir mourir.
Et vous dites que cette femme vous harcèle?
Ouais, depuis un bout de temps. 6 mois, peut-être.
Pourquoi vous n'êtes pas venu le signaler plus tôt?
Elle a besoin d'un psy. Elle débarque à mon travail, elle se pointe chez moi, elle m'envoie des mails sans arrêt.
Elle a proféré des menaces contre vous?
Oui.
Je ne dirais pas que celui-ci est particulièrement menaçant.
Tu la supportes pour une bonne raison. Elle t'apporte quelque chose.
Tu sais que t'as des mains vachement masculines. Mais une mâchoire saillante, tu veux pas qu'on s'échappe quelque part? Alors t'es humoriste?
Si on veut.
Ça marche pas bien.
C'est une question ou...
Quelqu'un t'a fait souffrir, c'est ça? C'était qui?
Martha, tu peux me lâcher la main, s'il te plaît? Martha, lâche-moi!
Non, je suis pas d'accord!
On voit que c'est une relation qui est quand même assez particulière. Et dans la bande-annonce, on le met même basé sur une histoire vraie. Cette femme-là, Jean-Michel, a été retrouvée par des journalistes. C'est sûr que tout le monde voulait savoir c'est qui cette femme-là. Elle existe pour vrai. Alors, on veut un nom, on veut un visage sur elle. Et bon, dans les derniers jours, elle est apparue sur un plateau de télévision américain. Elle est allée au talk show de Piers Morgan jeudi dernier. Elle s'appelle Fiona Harvey. Elle dément absolument tout ce qui est là-dedans. Elle dit que c'est des mensonges. Donc, en bloc et accuse Richard Gadd, qui est l'homme en question dans la série, qui s'est senti un peu harcelé par cette femme-là et qui a décidé de vendre le concept à Netflix, d'avoir fait de l'argent sur elle, en plus sur des faussetés. C'est fascinant, là, Jean-Michel Bertillon.
Oui, puis c'est compliqué. C'est vraiment une situation hyper complexe parce que Richard Gadd, le personnage principal, l'acteur qui l'interprète, c'est aussi le scénariste, le scénariste de la télésérie, le scénariste de la pièce de théâtre originale. Lui, il a admis avoir utilisé sa vie personnelle dans des détails très, 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 très précis pour être capable d'écrire Baby Reindeer. Et pour sa part, en fait, l'adaptation théâtrale de son existence, il n'y a pas eu de problème. Il a vendu le produit. En fait, la pièce elle a été présentée à Édimbourg. Puis à Édimbourg, c'est vraiment un lieu pendant le festival de théâtre amateur. C'est un lieu où est-ce qu'on ramasse beaucoup de projets en développement à l'international. Fait que lui, il ne voyait pas nécessairement de problème d'avoir mis autant de sa vie dedans. C'est juste que quand c'est arrivé à Netflix, Netflix n'a pas informé. Puis c'est vraiment là le nerf de la guerre. C'est que Fiona Harvey n'a jamais été informée qu'il y avait des séries qui étaient en développement, qui comportait des scènes de sa vie.
Donc, cette femme-là qui n'a jamais été contactée, qui a appris ça en même temps que tout le monde, finalement, sur Netflix, là.
Exactement. Puis elle a appris ça, évidemment, de la pire manière possible. Elle l'a appris via ce qu'on appelle tout le mouvement du doxing. Fait qu'en gros, qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est que les ministères en ligne, on le sait bien, ne restent pas des ministères très longtemps. Les gens ont une volonté d'aller fouiller, de faire un peu de travail de détective amateur. Fait que quand Richard Gadd a déclaré que c'était quelque chose qui était autobiographique, hein, ils ont immédiatement voulu savoir qui était la vraie Martha Scott, le personnage. Fait que ça n'a pas été très, très long qu'ils l'ont trouvé. Et quand ils l'ont trouvé, ben Netflix s'est défendu en disant « Nous, on a tout fait pour la cacher, on a tout fait pour occulter l'identité de la personne. » Sauf qu'au final, c'était pas tant vrai que ça.
Est-ce que, ouais, c'est ça, là. Ça, c'est, ouais. Ça a été tellement facile à retrouver. Fait qu'à un moment donné, on est capable de faire des corrélations. Mais au-delà de ça, moi, ce que je me demande, Jean-Michel, tu travailles là-dedans, tu travailles avec des jeunes, tu crées du cinéma, tu connais les conventions, tu connais le droit. Est-ce que toi, de ton œil, il y a eu des infractions. Est-ce que toi, de ton œil d'expert là-dedans, tu te dis, ben là, Netflix en met un peu là, parce que ça a été effectivement trop facile de retrouver la dame?
Tu mets directement le doigt dessus. Moi, c'est la première affaire qui m'a passé par la tête, c'est je ne peux absolument pas croire qu'est-ce qu'ils disent, parce qu'ils ont conservé, en fait, ils n'ont pas conservé, ils ont reproduit des tweets intacts du compte de pardonne-moi, Fiona Harvey. Fait que ils n'ont pas vraiment, tu sais, même de chercher des tweets sur Internet, c'est assez simple, là, on peut les retaper texto, baiser Enter, puis on va tomber sur le compte Twitter. Fait que c'était l'expression, ou du moins la défense, de dire qu'ils ont tout fait, elle est extrêmement mince. Je pense que Netflix, comme beaucoup de controverses, on pourrait dire, autour de cette compagnie-là, ont tourné les coins ronds, puis ont dit c'est pas si important, ou s'il y a une controverse, on est capable de la gérer, puis ils sont dedans.
C'est quoi les craintes qu'on peut avoir quand tu as une entreprise comme ça qui détourne un peu tout ce qui est normalement bien en place pour protéger, ben, dans ce cas-ci, des gens de voir leur histoire ben, au grand jour, à l'international, et qu'on se fasse de l'argent sur notre dos, peu importe qui nous sommes dans la vie? Parce que je dois avouer que cette femme-là, dans la série, fait peur. C'est absolument traumatisant et troublant. Là. Oui. Est-ce que c'est absolument tout ce qui s'est passé dans la vraie vie? Je sais pas, LNI, il y a une série qui montre d'autres choses. Il y a des choses qui ont été reproduites de façon quand même assez véridique et réelle, basée sur bon, des vrais textos, entre autres, comme tu l'as dit. Mais pourquoi est-ce que Netflix peut s'en foutre comme ça? Pourquoi est-ce que Netflix n'a pas plus peur d'aller en cours ou encore d'être poursuivi?
C'est une super bonne question, parce que moi, j'ai l'impression, en regardant le modèle d'affaires de Netflix, c'est tout à leur avantage de faire profil bas. Il faut qu'ils fassent très attention par rapport à comment ils se comportent, parce que on le sait déjà que leur modèle d'affaires est, tu sais, ça ne produit pas d'argent. En fait, on sait que Netflix, c'est une compagnie qui va prendre des déficits pendant aussi longtemps qu'ils n'auront pas ni tout le reste en faillite. C'est là où ils vont commencer à faire de l'argent. C'est quand on va avoir étranglé la télévision, c'est quand on va se débarrasser des autres services de streaming. C'est seulement à ce moment-là que Netflix va commencer à faire du profit. Tant et aussi longtemps que ça s'est pas arrivé, tout ce qu'ils sont capables de dire, c'est on a des immenses succès, on a des grandes téléséries que tout le monde écoute, notamment Baby Reindeer, qui disent que c'est leur plus gros succès de l'année, et tout. Mais à mon avis, ils devraient faire très attention par rapport à la controverse, parce que à chaque fois qu'il y en a une comme ça, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est le gouvernement qui s'implique. Fait là, dans le cas de Baby Reindeer, ce déboire-là a déjà ni emboîter le pas par rapport à un qui s'appelle le UK Media Bill, qui appartient au Digital Culture, Media and Sports Department. Fait qu'il y a déjà, dans cette controverse-là, qui est très récente, là, le gouvernement est déjà en train de regarder sur, OK, on a laissé ça aller trop longtemps. Et là, en Angleterre, je dirais que ça va être une question de semaine avant que il y a une loi concernant l'identification puis les droits de reproduction visuelle, les droits de visibilité, les droits d'identification, tout ça. Ils vont serrer la vis sur Netflix. C'est ça qui arrive, c'est qu'à chaque fois que Netflix a un déboire comme ça, la vis serre de plus en plus. Et là, les gouvernements qui, à cause des lobbyistes, ont laissé ces affaires-là laisser pendant un petit bout, ben là, ils se rendent compte que, ben, les gens ont peur. Les gens écoutent qu'est-ce qui se passe autour de Baby Ranger, puis ils font, ben ça peut être n'importe qui. Fait que, s'il vous plaît, le gouvernement, faites quelque chose.
Oui, puis là...
C'est pour ça que je dis Netflix, il faut qu'il se calme, là.
Oui, parce qu'ils font tout en se disant, ben on sera sanctionné si jamais on a à se faire sanctionner et si les gens prennent ce qu'ils peuvent prendre justement contre nous pour justement nous punir de certaines actions. Dans ce cas-ci, il y a deux protagonistes. Il y a le protagoniste qui l'a vécu, puis il y a le protagoniste qui l'a aussi vécu, mais qui n'a jamais demandé à voir son histoire sur une plateforme aussi populaire que Netflix. Peut-être en terminant, Jean-Michel Berthiaume, est-ce qu'elle pourrait s'en sortir avec une compensation monétaire intéressante? Est-ce que au dépens de Richard Gode là-dedans?
Oui, bien, elle poursuit, là. C'est certain qu'elle va se mettre à poursuivre tout ce qu'elle est capable de poursuivre, que ce soit le créateur, que ce soit Netflix soi-même. Elle est entièrement dans son droit. Je veux dire, moi, je travaille à l'École des médias à l'UQAM et on est extrêmement craintif en cinéma par rapport aux droits de reproduction, en fait, les droits d'usage des personnes, même dans une foule. Tu sais, fait que là, je peux juste imaginer pour quelqu'un qui a été non seulement portrait hors de son insu, sans sa connaissance, mais en plus, comme tu le mentionnais tantôt, c'est pas flatteur, là, son affaire.
Non, c'est pas flatteur du tout, là.
De mort, puis ça va pas bien pour elle. Fait que je pense pas qu'il y a un jury qui va prendre le bord de Netflix.
Oh, mais ça va être intéressant à suivre, pareil, pour la suite, là. Ça peut être quand même énormément... ça peut être une somme, là, quand même faramineuse qu'on va avoir à payer. Est-ce que ça pourrait mettre Netflix dans des boîtes financières? Peut-être aussi, là, mais chose certaine. Peut-être qu'on va poursuivre plusieurs personnes là-dedans, autant Netflix que celui qui l'a réalisé, qui l'a vécu en arrière, mais chose certaine. Fiona Harvey, qui est avocate écossaise, reçoit depuis... Oui, c'est ça, fait qu'elle connaît ses droits. Oui. Reçoit depuis le lancement de Mon Petit Reine en français. Beaucoup de menaces, d'insultes, tu le dis. Et elle nie tout. Elle nie absolument tout. Alors, on s'engage dans un genre d'histoire qui pourrait faire une suite à cette série-là. C'est ça qui est fascinant. Elle pourrait prendre sa revanche comme ça, là.
Oui, c'est vrai que c'est quand même une bonne proposition. Tu pourrais le proposer.
Oui.
Puis, vraiment, c'est biffe les noms, là. Change-les. Appelle les gens, Guy.
Oui, c'est ça. Tu poursuis Netflix, tu ramasses tout l'argent que tu peux. Tu poursuis cet homme-là, tu ramasses tout l'argent que tu peux. Et tu vends ton concept à Crave, finalement.
Ouais, hey, on a des idées, là.
On a des idées. Merci beaucoup, Jean-Michel Berthiaume. Bonne fin de session du côté de l'UQAM, sémiologue qu'on adore à l'émission.
Merci beaucoup. Bye.
Bonne journée. Hey, ça me captive des histoires comme ça. Il y a toujours, tu sais, au-delà de ce qu'on voit par rapport à Netflix, par rapport à notre divertissement principal, parce que quand on regarde une série, finalement, c'est pour se changer les idées un peu. Des fois, c'est pour apprendre, mais là, c'est pas un documentaire. Quoique, il est troublant, il nous fait vivre des émotions, mais c'est sur le dos de quelqu'un qui n'a jamais consenti. Bien sûr, là, à un moment donné, avec l'image qui est portée, bien que ce soit... peut-être l'image véridique de cette femme-là. Elle veut nier tout ça en bloc, là, et c'est ce qu'elle a fait sur un plateau de télévision américain. Mais si ça vous arrivait, vous, que vous soyez du jour au lendemain victime, en fait, d'une plateforme comme ça qui exploite votre vie parce que vous avez bien des choses vécues ou des choses à dire ou que vous avez harcelé peut-être quelqu'un aussi, ça ne vous intéresse pas nécessairement. Vous devenez l'harcelé au final. Ah! Toute une histoire. Mais ça va être intéressant. C'est sûr que ça s'en va en cours. Puis moi, c'est malheureusement, peut-être que c'est encore le sens du spectacle sur le dos de quelqu'un, mais c'est quelque chose que j'aime suivre. Et vous? 418-971-1021. Passe-moi la poque, les colocs. De l'autre côté, William Trudel, Trudel Alliance, qui va venir jaser de ce qui va arriver avec les galeries de Charlebourg, mais j'ai aussi envie de lui parler de tous ses projets de construction. C'est comment ça va avec la Ville de Québec? Comment ça va essayer de développer Québec, justement? Est-ce qu'on a des contraintes, des bâtons dans les roues? Beaucoup de choses à aborder avec lui.